Quelles sont les pratiques d'hygiène pour se protéger des épidémies? Vous savez, le choléra, la rougeole, ainsi que d'autres épidémies sévissent dans plusieurs centres urbains et localités de la République démocratique du Congo. Des cas de décès des suites de ces épidémies sont enregistrés. Les mauvaises pratiques d'hygiène seraient à l'origine de la propagation de ces maladies. Connaissez-vous les gestes élémentaires pour se protéger des épidémies? On en parle dans cette émission avec notre invité, Dr Mavar Kouindani, expert en hygiène publique. Dr Mavar, bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous, quelles sont les pratiques d'hygiène à observer pour se protéger des épidémies?
Oui, bonjour, cher, pour la question.
C'est jeudi, docteur.
Ah oui, jeudi.
Oui.
Oui, pour les pratiques d'hygiène, se protéger contre les épidémies, vous savez qu'il y a des précautions universelles qu'on prend, d'habitude, notamment pour le personnel médical et pour le personnel non médical. En dehors de ça, il y a des mesures d'hygiène individuelles que une personne peut prendre pour se protéger, et il y a des mesures d'hygiène collective. Pour les précautions universelles, surtout pour le personnel médical, évidemment, il y a lorsqu'on est dans un milieu de soins, il y a l'hygiène qui doit prévaloir, là, les lavages de mains, le port de blouse, les gants, lorsqu'on doit examiner un malade ou après avoir examiné un malade suspect, et la gestion également au niveau de l'hôpital, la gestion également de tout matériel qui a servi à l'examen de l'individu ou d'une personne malade.
Oui.
Et puis aussi toutes les eaux qui servaient qui ont servi à l'examen ou bien au laboratoire ou bien au lavage des mains de personnes malades. Ça, c'est en ce qui concerne l'individu ou une personne au milieu de soins. En ce qui concerne la communauté, évidemment, à ce moment-là, c'est en fait les mesures d'hygiène individuelle qu'il faut faire prévaloir, notamment le lavage des mains, mais aussi parfois il faut éviter un certain contact direct avec une personne malade lorsqu'il s'agit des maladies éruptives parfois ou contaminantes. Et il y a aussi les autres précautions qu'on peut prendre. En ce qui concerne la communauté, évidemment, il faut protéger la communauté dans ce sens que chacun puisse, au niveau de la communauté, individuellement et collectivement, puisse se protéger contre les maladies. À part les mesures, il y a aussi la protection de certains déterminants de sociaux ou déterminants de santé, notamment l'eau et l'assainissement, en fait, les matières d'assainissement et l'eau. Il y a également les denrées alimentaires qu'il ne faudrait pas oublier.
Nous voyons souvent à Kinshasa, les mamans vendent du pain ou des beignets en cours des routes ou sur les rues. Elles exposent sur les routes et ces aliments ne sont pas toujours couverts et les mouches viennent danser dessus. Alors, tous ces aliments exposés de cette façon peuvent transmettre des maladies.
Absolument. Les problèmes ou les phénomènes des aliments des rues, en fait, c'est un problème très important et qui mérite vraiment une réflexion. Au niveau, je pense, des autorités, il y a des mesures appropriées qui sont en train d'être prises, notamment dans la législation. Nous sommes en train de préparer des arrêtés au niveau du ministère pour qu'on puisse bien réglementer la vente des aliments dans les rues. Non seulement la vente, mais la conservation, la délivrance de tous ces aliments. Vous voyez, par exemple, les pains qui viennent des entrepôts, dans les entrepôts, et quand on les prend dans les entrepôts, on les manipule parfois par une personne qui n'a pas de bonne santé.
Oui.
Et de là, les pains et tout ce qui contient va être donné à la maman. La maman va prendre ses pains, mettre dans un véhicule ou dans un chariot.
Ou dans un poussou, comme on dit.
Dans un poussou, oui, communément appelé poussou.
Poussou, oui.
Donc, il amène ses pains jusqu'à l'endroit. Les pains peuvent tomber, on les ramasse. On vous dira que non, les Congolais ne mettent pas des microbes. Évidemment, vous voyez, tout ça, donc, au fait, ce sont des pratiques qui expose la communauté, la population à des graves épidémies. Évidemment, les gens ne prennent pas conscience. Ils pensent que ce sont des pratiques banales, mais au fait, quand l'épidémie survient, c'est au fait les gouvernements et toute la communauté qui essaient de se démener pour trouver des fonds pour arriver à résoudre ou atteindre ces feux qui a été allumé quelque part. Un commerçant heureux.
Oui, ah, voilà. Il y a deux auditeurs en ligne, docteur, qui passent, nous appelle des Kikwit dans le Bandundu. Bonjour, docteur.
Bonjour, Pierre.
C'est jeudi, docteur. Quelle est votre question?
Bonjour. Ah, très bien, merci. Oui, je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention le docteur Mavage.
Oui.
Comme vous le savez, nous-mêmes, ici à Kikwit, nous sommes victimes de plusieurs épidémies, et ces épidémies, surtout en cette période, sont des épidémies de maladies liées à l'hygiène. Nous sommes, heureusement, c'est en récrudescence chez nous, l'épidémie de cette typhoïde. Mais dans la partie nord de Bandundu, on a eu le choléra. Je voulais simplement ajouter quelques faits sur ce que le docteur Mavage disait.
Oui.
Il a parlé très bien des mesures universelles, mesures de précaution universelles pour le personnel infirmier et pour les autres, et aussi pour la gestion des déchets qui viennent des malades une fois qu'on est en pleine épidémie. Il a parlé aussi de la communauté.
Mmh.
Et je voudrais ajouter quelques faits d'expérience. Il y a aussi avant l'épidémie et pendant l'épidémie. Avant l'épidémie, c'est ce qu'il a dit, bah, il faut que les législateurs nous aident au ministère de la Santé à renforcer toutes les dispositions légales en ce qui concerne les mesures coercitives, en ce qui concerne le comportement à risque à travers le Congo.
Mmh.
Il a cité des beaux exemples là de la façon dont on manipule les aliments ou en fait les aliments dans les maléwa et ce qui se passe. Il faudra aussi, en pleine épidémie, je disais, la mobilisation sociale est très importante. Parce que avec la mobilisation sociale, ça permet à la population d'adopter un comportement à moindre risque et en même temps à participer dans ce que nous appelons la surveillance épidémiologique à base communautaire. Une fois que la population, par exemple les relais communautaires participent, immédiatement ils peuvent, avec une définition simple des cas, dénoncer un cas suspect et personnel. Qui est engagé dans l'épidémie peut aller s'occuper de cette personne malade et de cette façon ça reste le cycle de l'épidémie.
Non, mais, il faut, vous dites docteur qu'il faut mobiliser tout le monde, la population, il faut qu'il y ait des relais communautaires, c'est cela.
Je dis oui, la mobilisation sociale est très importante. Parmi les autres aspects qu'il a cités là pour arrêter une épidémie, il faut contrôler. La mobilisation sociale est très très importante parce qu'elle permet à plusieurs cycles, et notamment la surveillance épidémiologique à base communautaire, c'est-à-dire les relais communautaires vont participer à détecter, à notifier les cas suspects qui se trouvent dans la communauté pour permettre au personnel engagé dans l'épidémie d'aller les chercher et de les amener à des endroits où ils doivent prendre
soin. Merci docteur Kipasa, des Kikwit dans le Bandundu. Merci pour cet apport. Jerry Mido nous appelle, est également à Bandunduville. Jerry, bonjour. Jerry, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon. Bonjour. Bon, je ne veux pas poser des questions à poser à l'invité. Bon, l'invité peut nous expliquer quel est ce processus-là, on parle de l'opératologie. Je ne sais pas, il peut m'expliquer de cela, mais la deuxième question est de savoir...
Pardon, Jerry, la première, pouvez-vous répondre à la première question, Jerry?
Il peut m'expliquer ce processus. Bon, la première question, je disais, l'invité peut nous expliquer ce processus-là, qu'on parle que le choléra projet dans l'eau de rivière. Je ne sais pas ce processus-là, d'où vient projet ce processus-là?
Ok, deuxième question.
Ma deuxième question, je pense que la FP, le chef de typhoïde, est-il maladie épidémique ou maladie endémique?
Merci, Jerry. Guy Loussamé, vous êtes à Guimena, bonjour.
Oui, alors bonjour, Zaki.
En vous écoutant, c'est jeudi.
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce que la chronicité peut favoriser aussi les épidémies?
Pardon, Loussamé.
La promiscuité peut favoriser les épidémies.
La promiscuité. Merci à Guy Lossamé de Guimena. Docteur Mava.
Oui, merci pour le premier collègue qui a parlé des choléra et le processus du choléra dans l'eau. Donc, pour lui, ce qu'il faut qu'il sache, c'est que... Allô?
Oui, allez-y, docteur.
Ok, d'accord. Les cholérales, c'est vrai, c'est en fait parmi les maladies qui sont liées au manque d'hygiène. Et lorsqu'on attrape les cholérales, évidemment, c'est en fait une catastrophe pour la personne et pour la communauté. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui favorise, parmi les éléments qui favorisent, c'est en fait cette dissémination à partir de l'eau. Mais nous avons parlé des déterminants, nous avons parlé des arrêts alimentaires, mais il y a aussi l'eau de boisson.
Oui.
L'eau de boisson qui est très importante et pour lesquelles il faudrait les garder insalubres. Mais lorsqu'on trouve, dans le cas des choléra, évidemment, c'est l'eau qui favorise la propagation de la maladie. Et pour la fièvre typhoïde, c'est vrai, la fièvre typhoïde, elle agit de façon épidémique. Bon, en RDC, l'endémicité de la fièvre typhoïde n'a pas encore été, n'est pas encore connue ou n'est pas encore bien installée, mais au fait, on constate quand même qu'il y a une certaine recrudescence des fièvres typhoïdes comme celle qui survient, qui quitte et ça reste un peu longtemps. Si on n'arrive pas, ça peut constituer une endémie. Bon, l'autre collègue a parlé de la promiscuité.
La promiscuité, oui, peut-elle favoriser la propagation de l'épidémie?
Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons, quand nous regardons tout ce qui est gestion des déchets, nous avons les vecteurs qui sont tout autour, les rats, les cancrenats, les mouches. En fait, ce sont les vecteurs qui vont favoriser la propagation des épidémies et qui vont permettre à ce que l'individu, surtout pour ceux qui font une alimentation saine, peut être contaminé par les vecteurs que nous venons de citer. Et ça peut favoriser la propagation des épidémies d'un milieu à un autre.
Oui. Ingénieur Mangoyo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Monsieur Jordi.
Quelle est votre question?
Oui, monsieur Jordi, moi, c'est plutôt une préoccupation. Hein?
Oui.
Bon, je voudrais aussi suggérer quelque chose. Vous savez, monsieur Jordi, cette histoire de l'hygiène publique est un grand problème dans notre pays.
Mm-hmm.
Moi, je pense que la solution, ce n'est pas au niveau des textes et des lois. Nous avons des textes qui réglementent tout ça. C'est plutôt le suivi et l'exécution de ces textes-là. Regardez au niveau des communes. Nous sommes dans le quartier ici. Les mamans qui vendent des produits alimentaires, à même le sol, à découvert des pains, des choses, des beignets, tout ça, il n'y a pas de suivi. Au niveau du quartier, on doit responsabiliser les bourgmestres. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que les bourgmestres font. Parce que les chefs de l'État ne peuvent pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Le ministre ne peut pas descendre jusqu'à ce niveau-là. Mais c'est plutôt les entités décentralisées. Moi, je pense que si on parvenait à restaurer la brigade d'hygiène publique, je crois qu'on peut facilement arriver à bout de cette solution. Les cimetières sont remplis. Les gens meurent au jour le jour. Monsieur Jordi, allez à la morgue de Kinshasa, à l'hôpital général de Kinshasa. Vous serez vraiment stomaqué. Hein? Alors, quand les gens disent que les Congolais et les nègres ne meurent pas, c'est une grave erreur. Sinon, comment expliquer tous ces cimetières qui se remplissent vraiment à ne rien de temps? Non, c'est dangereux. Je crois qu'il faudra que l'autorité prenne les choses au sérieux. Au niveau des communes, le bourgmestre veut de croiser les bras dans les bureaux, ils ne viennent que lorsqu'il y a des petites, c'est comme moi, tout ça, ils rassemblent les gens. Ils doivent travailler.
Voilà.
Restaurer la brigade d'hygiène publique, demander à tous ces mamans-là de couvrir leurs produits alimentaires qu'ils vendent, et même à la rigueur, imposer des amendes. Je crois que c'est seulement comme ça qu'on va faire marcher les gens et essayer un peu de mettre les gens à l'abri de toutes ces maladies, de toutes ces épidémies. Là. Autrement, c'est vraiment un coup de pied dans l'eau. Les
Merci.
Gens sont
oui.
tellement habitués à faire ça que s'il n'y a pas de rigueur,
oui.
un suivi là au niveau des communes, rien ne sera fonctionné.
Merci, ingénieur Mango de Kinshasa. Docteur Mava Kouengani, est-ce que la brigade d'hygiène existe toujours?
Oui, la brigade d'hygiène existe et elle est bien là, mais au fait, la brigade d'hygiène est confrontée à quelques petits problèmes, notamment le vieillissement du personnel, ce qui a pratiquement permis à l'autorité du ministère de la Santé de le résoudre, parce qu'au fait, monsieur le secrétaire général est en train d'examiner des requêtes qui ont été formulées au niveau des provinces pour pouvoir redynamiser cette brigade d'hygiène avec un personnel nouveau. Il y a un suivi qui se fera. C'est vrai qu'il y a aussi l'utilisation de la brigade d'hygiène par les bourgmestres qui ne savent évidemment pas l'utiliser. Nous avons été dans plusieurs provinces, nous avons fait le même constat que le frère a fait tout à l'heure, où les bourgmestres s'épanchent sur les activités lucratives et essaient de se détourner de la brigade d'hygiène qui sont dans les communes et dans les zones de santé. Donc ils ne savent pas les utiliser et ça c'est une préoccupation. Mais je pense que le ministère de la Santé a pris des précautions, a pris des mesures de telle façon qu'il y aura un accompagnement de proximité avec la brigade d'hygiène et je pense que l'autorité est vraiment investie par rapport à ça.
Alors, docteur, on va bientôt terminer. Nous savons qu'il y a beaucoup de Congolais qui voyagent par bateau, par ce qu'on appelle baleinière et autres. Ils utilisent parfois l'eau du fleuve comme boisson, pour préparer. Et or, vous avez dit tout à l'heure que le choléra, oui, et certains font les besoins naturels, c'est toujours dans cette eau-là. Alors, c'est la même eau qui est utilisée pour préparer. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter ces maladies dont on parle particulièrement, le choléra?
Oui, je pense que pour les gens qui voyagent dans des embarcations et dans des bateaux, donc en fait, les systèmes d'abord d'approvisionnement en eau doivent être bien instaurés au niveau des bateaux et que ça soit l'eau potable. Et s'il n'y a pas l'eau potable, évidemment, il faut mettre en place un système d'approvisionnement en eau potable en donnant des purifiants ou en distribuant de l'eau qui ont été puisées dans des endroits appropriés. Deuxièmement, c'est en fait l'assainissement de base, notamment les latrines. Dans des bateaux, des embarcations de fortune, il n'y a pas de latrines. Il faut qu'on insiste pour surtout les fabricants et réhabiliter les installations sanitaires qui se trouvent dans les bateaux, qui puissent fonctionner de façon correcte et appropriée. Troisièmement, c'est au fait la gestion, l'alimentation au niveau des bateaux, des embarcations. C'est au fait une alimentation précaire. Je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, qu'on puisse instaurer les systèmes de transport comme c'était avant avec l'ONATRA, aujourd'hui c'est la SPT, qu'on puisse avoir des cuisines bien appropriées. S'il n'y a pas de cuisine, que l'alimentation soit saine. Sinon, ça sera vraiment difficile pour nos populations. Et à chaque fois qu'une personne se déplace en bateau, qu'on fait des inquiétudes sur son arrivée dans de bonnes conditions.
Docteur Mavar Kongani, on va peut-être poursuivre un autre jour. Nous rappelons que vous êtes expert en hygiène publique. On s'arrête là pour aujourd'hui. Bon début de week-end.
Et allô?
Je disais, docteur, merci. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve une prochaine fois. Merci et bon début de week-end.
Merci.
Oui, c'est jeudi, docteur. Allez-y, rapidement.
Oui. Je suis avec le secrétaire général, certainement, la santé. Je ne sais pas. Je pense qu'il a certainement un mot.
Docteur Mavar, on va le rappeler plus tard. On n'a plus assez de temps. On va le rappeler plus tard pour préparer une émission avec lui. Merci et à la prochaine.